Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour. Bonjour François Jolivet.
Bonjour.
Député de l'Indre, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau, et d'autant plus que ça fait bien longtemps que je n'étais pas venu physiquement ici à Radio Immo, et pour cause que tout le monde peut imaginer. On va continuer ces rencontres avec les élus. Vous êtes un spécialiste du logement, vous êtes commissaire spécial des crédits du logement et de l'hébergement d'urgence dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2021. Vous avez travaillé en 2017 sur un rapport du projet de loi finances prévoyant en matière d'appel un prélèvement plus progressif et un étalage de la réforme prévue sur 3 ans. On s'est déjà rencontré à plusieurs occasions au Club de l'Accession à la propriété. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce sujet de l'hébergement d'urgence pendant cette période sanitaire du Covid? Quel impact le Covid-19 a eu sur l'hébergement d'urgence et quelles sont les mesures supplémentaires pour y faire face?
Écoutez, la décision du gouvernement a été d'abord de poser comme principe l'accueil de toutes les personnes et de faire en sorte que nul ne décède dans la rue. Alors, vous savez, l'État travaille avec beaucoup de partenaires et je voudrais rendre hommage à l'ensemble des associations qui en chargent ces missions pour son compte, qui ont bien entendu rencontré des difficultés économiques, donc elles sont en train de renégocier leur équilibre pour l'année 2020. 2021, parce que là on parle de 2020, alors on est toujours dans la crise sanitaire, sans doute qu'avec les morts sanitaires, on risque d'avoir, entre guillemets, des morts sociaux, puisque la crise économique s'installe, et donc on risque d'avoir des gens qui sont encore plus dans la difficulté. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a prévu 2,2 milliards pour l'hébergement d'urgence. On se dit, et moi en qualité de rapporteur, je me dis que ce ne sera peut-être pas suffisant, parce que déjà sur 2020, on nous annonce dans un PLFR peut-être 300 à 400 millions supplémentaires déjà pour boucler l'année 2020, ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui on part au plus pressé. Il faut ajouter tout de même les ressources du ministère de l'Intérieur, puisque pour la première fois en 2020, on a 2 ministères en charge de l'hébergement. Le budget 177 que j'ai l'honneur de rapporter concerne le ministère du Logement. Et puis après, vous avez un autre budget opérationnel qui concerne le ministère de l'Intérieur, qui est en charge l'accueil des personnes en situation irrégulière sur le territoire français.
Et ça, c'est tout nouveau.
Et ça, c'est nouveau, c'est la première fois. Donc il faut que les ministères...
Il faut additionner les deux.
Il faut additionner les deux. Il y en a 400 de l'autre côté. Mais voilà, les ministères apprennent. Vous me direz, c'est une bonne année pour qu'ils apprennent vite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout l'enjeu est d'accueillir, et de bien accueillir, mais aussi de nourrir. Et ce quotidien, ce n'est pas le député qui le vit, c'est plutôt les gens qui sont au plus près du terrain, et celles et ceux qui hébergent et qui ramassent.
Oui, au-delà de l'hébergement qui nous réunit aujourd'hui autour de cette table, en effet, il faut nourrir, et de mémoire, toutes les associations... qui portent ce sujet et qui habituellement travaillent que l'hiver, ont travaillé tout au long de l'année.
On travaillait
tout
au long de l'année.
C'est une première, malheureusement, depuis 30 ans. Et ça risque de continuer. Et puis on arrive aujourd'hui à la veille de l'hiver aussi. On est déjà à l'automne. Et donc là, il va falloir voir comment il y a cet accompagnement dans une seconde vague qui est maintenant inéluctable puisqu'on est dedans.
Voilà. Et le pire serait sans doute que nous ayons des personnes décédées du Covid dans la rue. Et je pense que nul ne le souhaite.
Bien évidemment. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'on a voulu une hyperdensification, une métropolisation, construire sur la ville. J'étais le premier d'ailleurs à porter aussi ces sujets de densification urbaine dans les zones pavillonnaires avec le projet Binbi. Et puis aujourd'hui, la cause principale de la prolifération, c'est la densité. Est-ce que ça va remettre en cause en fait notre concept de l'urbanisme? Faut-il penser l'aménagement du territoire? On voit que beaucoup veulent peut-être aller aujourd'hui dans les villes de province, dans les cœurs de ville d'ailleurs, qui est aussi une priorité du gouvernement en termes d'investissement. Comment va se rééquilibrer en fait l'habitat sur le territoire national?
Écoutez, intuitivement, parce qu'en fait la vague de fond sur la densification et la métropolisation vient de loin. Intuitivement, on peut déjà se dire que sans doute la Covid-19 est l'ennemi de la densité. Où la densité est l'ennemi de la Covid-19.
Alors qu'on la portait de plus en plus, pour des raisons particulièrement écologiques.
Alors, pour des raisons écologiques, alors on n'a pas fait le coup des métropoles, hein, même en carbone. Hein, on n'a pas fait les calculs savants qui permettraient de dire que la métropole peut-être dont on dit qu'elle est un gisement économique et social, peut-être aussi un appauvrissement économique et social pour le reste d'un territoire. Et parce que la France, elle est une indivisible et elle doit être prise en compte dans son ensemble. Là, ce qu'on observe, c'est que, en tous les cas, il y a un certain nombre, moi, qui suis élu d'un département modeste qui s'appelle département de l'Indre, peu d'habitants, mais sans doute un des départements qui compte le plus de châteaux et de très grosses maisons bourgeoises, et bien que ces maisons et ces châteaux qui ne se vendaient pas sont vendus plutôt à des jeunes cadres qui posent qu'une seule question, très haut débit. Oui, non, si très haut débit, on regarde l'offre.
Ce oui, qui sachant veut donc dire... que la visio, le télétravail, pour certains cadres, pas pour tout le monde bien évidemment, peut devenir une formule nouvelle voilà, puis, qui permet d'aller vivre plus loin des métropoles.
Voilà, vous savez, le télétravail, c'est le premier ennemi du télétravail, c'était pas le collaborateur, c'était le patron ou le chef du service qui considérait qu'il pouvait exercer son autorité en voyant les gens arriver au boulot et pouvoir les croiser dans la journée. Mais maintenant, ils se sont appris et maintenant, les premiers défenseurs du télétravail deviennent les employeurs parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire des économies de coûts de structure et de bureaux. Il n'y a qu'à voir le marché locatif des bureaux dans les zones urbaines denses, comme Paris. Je ne crois pas qu'il est montant, il va plutôt descendant. C'est d'ailleurs cette vague-là avait commencé déjà l'année dernière, puisqu'on a autorisé à faire des logements dans des bureaux, donc avec des pièces aveugles, et afin de sortir du marasme un certain nombre d'acteurs qui pouvaient y entrer. Et là, le marasme va être total. Et je pense qu'aujourd'hui, d'autres formes de management se sont créées. On peut considérer que le très haut débit, c'est ce qui rapproche tout ce qui est loin. C'est d'ailleurs une des priorités du gouvernement, y compris pour les départements ruraux. Et sans doute que cette connexion avec le monde pour les départements ruraux, et donc aussi avec les métropoles, permettra peut-être à des gens d'échapper à l'hyperdensité et peut-être de retrouver une qualité de vie que nous sommes en train de perdre dans les zones urbaines.
Oui, c'est clair. En tout cas, de perdre notamment parce qu'il y a ces besoins actuellement. Alors, combien de temps ça durera? Après, comme on le disait tout à l'heure en aparté, il y a une deuxième vague. Peut-être y en aura-t-il une troisième. Et on peut imaginer que dans 10 ans, il y aura peut-être d'autres pandémies. Donc, c'est clair que ça va totalement repenser l'urbanisme, l'organisation de la vie dans les villes. Et peut-être cette urbanisation qui avait démarré et qui peut peut-être s'amplifier au profit des villes moyennes, d'ailleurs.
Bien sûr. Vous savez, moi, mon département... Alors, l'Indre et le Cher, c'était la province du Berry, et on tient notre nom à travers ceux qui étaient dénommés par César comme étant les excellents de France, en Gaule, qu'on appelait les Bituriges. Et les Bituriges, en fait, ils avaient une organisation sociétale qui faisait qu'au-delà de 100 personnes dans un village, le 101e partait pour aller recréer un autre village. Et il y avait deux raisons à cela. D'abord, la raison sanitaire, pas plus de 100. Et ça, on parle à moins,
c'est très intéressant,
à moins 4, à moins 4 avant Jésus-Christ.
Il faut aller témoigner sur les plateaux.
Voilà, moins 4 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, il considérait qu'au-delà de 100, le chef du village ne pouvait plus manager son village. Eh bien, je pense qu'on va réapprendre sans doute beaucoup des Bituriges.
Leçon des Bituriges, voilà. Remise à l'actualité du jour. Autre question, le ministère du Logement a annoncé que les dispositifs Pinel et le prêt à taux zéro devraient être verdis. Comment ce verdissement peut être concrétisé?
Alors déjà,
à l'aune d'ailleurs de ce qu'on vient de se dire.
Alors déjà, le gouvernement, malgré le nombre de rapports, Cour des comptes, du rapporteur général du budget, de corps d'inspection du ministère des Finances, le Pinel va être vraisemblablement dans cette loi de finances prorogé jusqu'à fin 2022 afin de donner un peu de lisibilité.
Bon, ça pourtant, permettra de souffler pour beaucoup
Et PTZ aussi. Pourtant, beaucoup de rapports démontrent que ces deux dispositifs, alors soit ceux qui écrivent ne comprennent rien, ce qui pourrait arriver, mais je ne le crois pas, soit il faut faire évoluer les choses. Donc, on a 2 ans pour pouvoir les faire évoluer. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le verdissement, il y a une disposition de la loi de finances qui ne me convient pas trop, qui interdit les maisons individuelles groupées.
Sent qu'aujourd'hui, il y aurait une tendance vers cela.
Alors que les parties communes d'un immeuble sont plutôt l'ennemi aussi de la Covid-19, ou inversement. Mais tous ces arbitrages ont été rendus en mai, et on ne pensait que ça pouvait s'arrêter. Je pense qu'il faudra quelques années pour l'appareil d'État pour tirer les conséquences de la crise et peut-être de l'anticiper. Et la forme d'habitat doit être anticipée. Parce qu'en fait...
En tout cas, des habitats plus BBC, plus tournés sur l'environnement...
L'habitat BBC, je dirais...
L'habitat parallèlement.
Voilà,
en fait,
oui, alors ça... Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à atteindre les performances souhaitées, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que L'habitat avait baissé, sans doute. Mais je dirais d'abord l'habitat avec beaucoup moins de charges pour l'occupant. Puisqu'aujourd'hui, oui, vous savez très bien que les loyers ne montent pas, ou très très peu, et que ce sont les charges qui montent.
Et, donc mieux isolé pour dépenser
voilà, maîtriser les fluides. Maintenant, vous savez que autant on sait bien construire pour maîtriser les fluides, autant bien réhabiliter, et c'est aussi l'enjeu du patrimoine français. Quand vous avez une vieille chaudière ou une chaudière qui a été faite pour pousser de l'eau chaude à 80 degrés, vous n'allez pas lui faire pousser de l'eau chaude à 35 degrés avec les mêmes retours. Donc, ça veut dire qu'il faut changer toute l'installation. Ouais. Et aujourd'hui, tous les experts le démontrent. Donc, ça veut donc dire que l'enjeu, c'est les économies de charges pour les occupants. Parce que moi, je ne parle pas de pouvoir d'achat. Je parle simplement de pouvoir d'acheter et surtout de faire en sorte que nous tirions enfin les conséquences de la monoparentalité dans les logements. Parce que maintenant, il n'y a souvent plus qu'un seul salaire. Et pour se chauffer à 19 ou à 21, eh bien, c'est un seul salaire qui paye les charges. Avant, il y en avait deux.
Alors, dernière question. Mais en septembre, a été révélé le projet du gouvernement de prélever 1 milliard d'euros dans les caisses d'Action Logement. À votre avis, quelles sont les conséquences pour le logement social suite à ce prélèvement?
Alors, moi, je...
Et tout cela en une minute.
Alors, moi, je vous avoue ma surprise. Alors, moi, ce que je sais, c'est que lorsqu'on a un partenaire qui a des difficultés et qui a fait l'objet de beaucoup de rapports d'inspection, lui aussi, divers et variés, l'année dernière, on se dit, peut-être faut-il mieux l'aider, lui fixer des objectifs, des objectifs techniques. S'il a des problèmes de gouvernance, améliorer sa gouvernance. Puis après, vérifier si la trajectoire financière de la structure permet d'atteindre les objectifs fixés par l'État et puis, le cas échéant, lui prendre s'il a trop d'argent ou peut-être lui en redonner. Ce que j'observe, c'est que ce n'est pas le chemin qui a été pris. Là, c'est une mesure qui me semble être de rendement.
Il y a un tiroir caisse ouvert, on tape dedans.
J'attends. Oui, mais on est aussi en grande crise. Hein. Je vous rappelle que l'État a mis 100 milliards, qu'ils prennent 1 milliard quelque part. Bon. Maintenant, prendre la participation des entreprises à l'effort de construction, c'est quelque part mettre la main dans le paritarisme. Parce que la PEC, comme on l'appelle, elle appartient à l'État parce que c'est une taxe affectée ou elle appartient aux salariés et aux entrepreneurs, le salarié disant c'est un salaire différé, l'entrepreneur disant moi je construis des logements, j'aide à la construction de logements pour loger mes salariés.
Ça sera pour notre prochain débat de savoir en effet quelle est l'origine de ce paritarisme et comment trouver les équilibres parce que le temps nous est compté. Merci infiniment François Jolivet, député de l'Indre,
c'est moi
de
qui
votre
vous
participation aujourd'hui. Très bonne journée.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.